Salut, c'est Agathe, gréviste chez Citroën. Donc là, on est en train de dessiner dans l'atelier, toujours pour nos 300 euros, pour la retraite à 55 ans des vieux travailleurs usés sur les chaînes, pour l'embauche des intérimaires. Et voilà, je voulais laisser un message pour appeler tous ceux qui sont volontaires à venir samedi à 14h30 à Barbès. On appelle à une manifestation. Salut et merci.
Salut aux auditeurs de là-bas si j'y suis. Je m'appelle Agathe, je travaille à Citroën Aulnay. Enfin, j'ai travaillé jusqu'au 28 février. Depuis, je suis en grève avec plusieurs centaines d'autres ouvriers des chaînes de production. J'ai entendu aujourd'hui sur ton répondeur, Daniel, que des reporters de France 3 régionale sont en grève aussi et qu'il n'y aurait pas de journal télévisé ce soir. Mais alors, à quand la télé des grévistes ? Ce serait chouette de prendre l'antenne du 19-20 pour parler des luttes dans toutes les régions. Pour ce qui est de notre grève, elle dure depuis 3 semaines. On est des coriaces, face à un patron coriace aussi. La famille Peugeot, avec sa fortune personnelle qui s'élève pour 2006 à 3,5 milliards d'euros. Alors 300 euros de plus par mois pour nous tous, c'est quand même pas grand-chose pour eux. Bref, en cette période où les luttes sont plutôt pour défendre le peu qu'on a, nous, on a levé le drapeau des augmentations de salaire et on aimerait que d'autres se joignent à nous, publics et privés. Et pourquoi pas les grévistes de France 3, dont certains journalistes sont venus devant l'usine faire de longs reportages qui ne sont bien sûr pas passés à l'antenne. Mais à eux non plus, on ne laisse pas trop le choix. Alors faut que ça change et vive la grève. J'espère que j'ai pas été trop longue, mais vous m'excuserez, chers auditeurs modestes et géniaux. Et merci Daniel.
Oui, bonjour, c'est Hervé, Hervé de la Seine-Maritime, près de Fécamp. Je voulais vous faire une petite remarque par rapport à votre émission, Monsieur Mermet. Afin d'être dans le ton de votre émission qui se dit géniale, vivement que la 6e République arrive, afin que les 35 heures soient devenues dépassées, que la bourse augmente, comme sous Mitterrand, et que l'on mette en place de nouvelles taxes seront payés par tous ceux qui n'ont ou qui n'ont pas de salaire. Vos auditeurs qui, dans votre répondeur, soutiennent un tueur italien ou qui nous invitent à participer à des manifs m'affligent et me donnent envie d'écouter les grosses têtes sur RTL, ce qui n'est peut-être pas bon pour ma culture, mais au moins cela me détend. Allez, bonne journée et salutations.
C'est donc Jean-Pierre Pernaut qui vient d'être nommé ministre de l'Identité nationale. Cela n'est pas une surprise, en effet, qui d'autre que lui pourrait s'enorgueillir de connaître la vraie France sur le bout des doigts. Nommé par le président Nicolas Sarkozy, M. Pernaut prendra donc ses fonctions dès aujourd'hui au 3e étage de la Tour Eiffel, entièrement repeinte en bleu fluorescent et son sommet aménagé en bureau pour les fonctionnaires. Entièrement informatisé, ce ministère est, je cite, un outil formidable pour veiller à inoculer la culture française à nos nouveaux compatriotes, a déclaré le président Sarkozy. Jean-Pierre Pernaut aura donc la responsabilité de créer le contenu des microprocesseurs qui seront injectés dans la nuque des prétendants à la nationalité française. Un logiciel d'histoire de France officielle, un logiciel de comptabilité, un précis de grammaire française et la Marseillaise interprétée par Johnny Hallyday seront donc quelques-uns des trésors que les nouveaux Français labellisés assimileront automatiquement. Un lieu magique donc que ce ministère de l'Identité nationale qui résout du même coup l'ensemble des problèmes que posait l'ancien ministère de l'Éducation en remplaçant définitivement celui-ci.
J'ai une petite remarque à faire à Daniel Mermet et à son équipe de reportage en Chine. Je viens d'entendre ce chauffeur de camion qui dit gagner 200 euros pour le travail qu'il fait du matin très tôt jusqu'au soir très tard. Pourquoi simplement ne dites-vous pas que c'est ce qui nous attend en France bientôt? C'est ça la fin du contrat de travail, de la durée légale de travail. C'est bien ce dont rêvent tous les ultralibéraux qui veulent prendre la présidence de la République française. Merci beaucoup à tous vos reportages. Parfois, c'est difficile à soutenir tellement tellement on marche sur la tête.
Bonjour Daniel, c'est Thomas, architecte à Paris. J'ai bien écouté ton émission hier où tu parlais du grand stade de Pékin. Tu m'as parlé à peu près 5 ou 6 fois dans ton émission sans jamais citer les architectes qui avaient conçu ce fabuleux bâtiment. Il s'agit donc de Herzog et de Meuron, architectes suisses. J'aurais souhaité que tu puisses en parler un peu plus. Merci, à bientôt.
Enfin, heureusement qu'on a cet ersatz de Madame de Broutchibre qui apprend notre belle culture à ces braves Chinois, qui leur apprend qu'il ne faut pas faire du crépi dans des châteaux. C'est magnifique. C'est... Oui, on marche vraiment sur la tête. C'est pas un éléphant qui fait du vélo, il est en train de se taper la tête contre les murs, ton éléphant. Enfin, comme d'habitude, c'est génial. Merci, et puis merci, effectivement, comme tu as remercié... merci à Madame Oignon. Cette brave dame.
Bon, on va continuer. Alors, si ça vous plaît, comme ça, on va continuer notre voyage en Chine. Et aujourd'hui, je vous invite à faire un peu de tourisme, mais un tourisme un petit peu particulier. Vous allez écouter la différence. Il s'agit du tourisme de la transplantation. Ça existe à travers le monde, ce tourisme de la transplantation. Et ça existe aussi, et spécialement en Chine, vous cherchez un pancréas, un rein, un poumon, une cornée, un foie. Eh bien, nous avons ce qu'il vous faut, et ça va vous intéresser. Mais auparavant, il faudra entendre et écouter, selon... Encore quelques messages parmi ceux que nous avons choisis dans la boîte vocale de la basse, j'y suis au 01 56 40 37 37.
Salut à tous, c'était pour faire un appel jeudi prochain, le 22 mars, à un mois du premier tour des élections et un an après le mouvement social du printemps 2006. On propose de remettre la politique dans la rue et de réfléchir à la notion de démocratie qu'on nous propose par ces élections. Du coup, un rassemblement festif est prévu à Rennes avec un pique-nique dès 19h. On propose à chacun de ramener des instruments de musique, de quoi faire du théâtre, du slam, toutes sortes de choses de ce genre-là. Et puis, il y aura une manifestive vers 21h, donc dans la ville. Alors, le rendez-vous, c'est Place du Parlement à Rennes, mais cet appel à la fête politique qui a été lancé par le journal Le 69.3 a été relayé dans plusieurs villes. Donc, renseignez-vous, peut-être qu'il y a ça aussi près de chez vous, et autrement, organisez-le et... réinvestissons l'espace public. Vous pouvez avoir plus de renseignements sur le site internet du journal. Alors c'est www.le69-3.org. Voilà, mais merci bien et à bientôt, à jeudi. Salut.
J'ai appris hier par un petit entrefilet sur vos ondes que la France avait signé un traité d'expulsion avec la Chine. C'était juste un tout petit entrefilet. Moi je voulais simplement faire part de mon dégoût de cette classe politique qui nous gouverne. Mais quand je dis dégoût, c'est pas un mot, quoi, c'est vraiment il me dégoûte. Et j'ai vraiment d'être représenté par une classe de collabos, voilà. Allez, salut.
Je m'appelle Frédéric Deville, je vous appelle de Bruxelles, en Belgique. Avec quelques auditeurs assidus de votre émission, nous avons décidé de lancer un repère des auditeurs modestes et géniaux. Il n'y en avait pas dans la capitale de l'Europe. Rendez-vous compte. Nous sommes soutenus par deux associations, Présence et Action Culturelle, qui est un mouvement d'éducation permanente, et l'Association des Amis du Monde Diplomatique Belgique. Le repère se tiendra tous les quatrièmes mardis du mois à 20h30 dans un bistrot citoyen, la Maison du Pâque, 71 rue Middelbourg à Watermal-Boisfort, une des 19 communes de Bruxelles. Nous mettons en place un répondeur dont les messages seront diffusés lors de nos réunions. Je vous donne le numéro. 02 663 79 83, le préfixe international est le 32. Laissez-nous un petit message d'encouragement ou un coup de gueule, un coup de cœur, enfin. Donc, la première du repère des AMG de Bruxelles se tiendra le mardi 27 mars à 20h30. Si vous voulez plus d'infos, envoyez un mail à l'adresse info@pacwb.org. Merci, à bientôt.
Qu'ils sont mignons, ces petits ouvriers. Ils m'ont fait un très beau château. J'en suis très, très contente. Formidable.
Comment vous avez fait pour venir sans problème?
Je suis venue au risque de perdre ma vie pour vous raconter tout ce que j'ai vécu. De toute façon, on perd notre terre, on n'a plus de quoi vivre. De toute façon, on va mourir.
Non, vous n'avez plus rien à perdre, c'est pour ça que vous parlez.
C'est ça. Oui.
Bienvenue en Chine.
Bienvenue en Chine.
Nous, on est français.
Oh.
Flance. On vient de Flance. Ouais, c'est ça. Tu connais la Flance?
如果我在那边，那巴 c 是苏三点，法国国家广播电台。
Salut, c'est Daniel Mermet avec Wang Wang, avec Luc Richard, avec Guy Vantil, la Chine, un éléphant qui fait du vélo. Alors, vous cherchez toujours un pancréas, un rein, un poumon, une cornée ou bien un foie? Eh bien, nous avons ce qu'il vous faut. Contactez-nous avant de tomber très malade. Nous avons des donneurs d'organes immédiatement disponibles. Oui, vous avez bien entendu, amis, auditeurs modestes et géniaux, des donneurs d'organes immédiatement disponibles. Et qui fait une offre aussi alléchante? Eh bien, c'est le Centre international d'assistance à la transplantation. Centre international d'assistance à la transplantation, qui est situé à Shenyang, une ville importante dans le nord-est de la Chine, et qui fait ainsi sa publicité en ligne, sur le net. Pas de complexe, pas besoin de prendre des gants, rien en cela d'illégal. Vous pouvez trouver cette adresse sur Internet, et on vous dira ceci, un conseil. Sachez qu'en décembre et en janvier, c'est la bonne saison quand le nombre de donneurs est le plus élevé. Cela vous permettra d'attendre le minimum de temps avant de vous faire greffer un organe. Alors, vous vous dites, ah, formidable, quels sont les tarifs? Eh bien, un rein, ça vous coûtera 62 000 $, un pancréas entre 150 000 et 170 000 dollars, un cœur 160 000, une cornée 30 000, environ. Le prix approximatif, il y aura votre séjour à payer, votre voyage, etc. Voilà les conditions. Alors, vous vous demandez, mais d'où viennent ces organes? Qui sont ces donneurs immédiatement disponibles? Eh bien, c'est des bonnes questions. Il faut savoir que chaque année, en Chine, il y a 20 000 greffes qui sont réalisés. 2 millions de personnes sont en attente. Vous connaissez le problème mondial de la greffe d'organes, c'est que les demandes sont bien plus importantes, évidemment, que les offres. Et la Chine n'échappe pas à cette règle. Sauf qu'en Chine, on le sait, on exécute beaucoup. Il y a beaucoup de condamnations à mort. Selon Amnesty International, plus de 3 000. Mais selon la plupart des chercheurs et des observateurs, le nombre se situerait entre 10 et 15 000 exécutions chaque année. Chaque année, plutôt à la fin de l'année chinoise. C'est-à-dire, ah, regardez comme c'est curieux, en décembre ou janvier, c'est-à-dire avant le nouvel an. Le nouvel an, c'est aussi la fête du printemps. Et vous savez ce que c'est, avant le printemps, on aime bien faire le ménage. Alors, on exécute beaucoup. Et qu'est-ce qu'on fait de ces corps qu'on exécute? Eh bien, on prélève sur ces corps un certain nombre d'organes, dont pancréas, reins, poumons, etc. Voilà pourquoi ce Centre international d'assistance à la transplantation vous incite à venir dans cette période-là pour gagner du temps. C'est exactement ce qui nous a intéressés, ce qui nous a intrigués, et nous avons eu quelques réponses à ces questions qui peuvent éventuellement être les vôtres également jusqu'à 16h. Là-bas, si j'y suis, la Chine, un éléphant qui fait du vélo.
Thank you. 喂，你好，是这样，我想问一下，就是我这边有一个朋友，他是一个外国人，他可能他妻子他的那个肾有问题，想咨询一下，如果他要想那个换肾的话，
等会我给你转一下去。
好的，好的。这个是当大一点上这个。
Elle en est où là? Elle dit quoi?
Ouais, je vais expliquer. J'ai une amie, sa femme a un problème de rein, elle cherche des informations. Elle dit ouais, je trouve d'autres personnes à discuter.
你好。
喂，你好。
他太太多大年纪？
La quel âge ta femme?
36 ans.
是有问题，但是你要先把他的那个所有的那个就是
我明白
医疗的
对他的病历
给我，我不能说现在我什么连血型都没有
啊。对，我明白。
有没有糖尿病我还不知道。
我明白，我知道。Vous leur donnez tous les documents de votre femme. Après, elle pense que dans 10 jours, votre femme serait opérée.
Alors, dites-moi quels documents sont nécessaires.
数据都需要，他主要是他的血型，他有没有糖尿病，
肾
源是吧？主要是这两个。
De votre femme et aussi si elle a diabète.
D'accord. Elle en a pas, elle a pas de diabète.
Et le groupe.
C'est le groupe O.
O 减
O.
Et est-ce qu'elle a une idée un peu approximative du prix du
opération? 他想
手术的价格是65,000美金。
Donc c'est ça là.
65,000 dollars à peu près. Et on peut payer en carte ou comment on peut payer en espèces, en cash?
可以给我们公司转账，也可以交现金。
Soit par cash, soit par virement bancaire.
Y a pas de problème. Ah, cash. On peut pas payer par carte, par Visa?
Non.
再问一下。
Elle a demandé aux autres.
好像是不能上，
不能是吧？
能是他转到我们公司的账户上来，然后需要一个20,000美金的一个，就是抵押，像一个担保一样。
之前要
这个抵押金呢，这个抵押金呢，到最后患者离院的时候会还给你们。因为呢，就是说，这是我们很少收取这个钱，但是一般都是属于
20,000 dollars
的
la caution。
Il faut laisser 20,000 dollars de caution.
La caution, s'il y a pas, si tout va bien, à la fin, on va vous rendre tous ces 20,000 dollars.
D'accord. Mais ils font beaucoup d'opérations depuis quand ils existent? Quelle garantie on a?
已经做过超过300例患者了，肾移植。
Ils ont déjà fait plus de 300 opérations.
Voilà, on est à Pékin et depuis Pékin, on appelle Shenyang, on appelle ce centre de transplantation pour savoir un petit peu comment ça se passe, quels sont les tarifs, quelles sont les conditions, quels sont les avantages et aussi évidemment, quand même, c'est important, d'où viennent les reins en question et qui sont ces donneurs. Quelques éléments de réponse.
Donc vous pensez qu'elle vient quel moment pour l'opération?
Mais dès que c'est possible.
就是说，现在我跟你解释一个问题，就是说，过年之后，过了就是中国春节之后，肾脏非常少，因为我们的肾来源是中国的死刑犯的肾来源。就是说现在如果就是说他过年之前来不了的话，过年之后再来，估计等待的时间会很好的。
Donc, si votre femme ne peut venir que après le nouvel an chinois, il reste pas beaucoup de reins. Vous risquez d'attendre pendant 6 mois parce que le rein dans cet hôpital, ça vient des condamnés à mort.
Les reins viennent des condamnés à mort?
Oui.
Alors, donc il faudrait qu'elle vienne tout de suite alors pour profiter des reins des condamnés à mort. Est-ce qu'il y a beaucoup d'exécutions en ce moment?
En ce moment, oui. La plupart des condamnés à mort, ils sont exécutés avant nouvel an. Donc ça veut dire quand l'organe est fraîche, il faut faire l'opération tout de suite. Et en plus, on a beaucoup de ressources, on a beaucoup de reins, mais les clients, ils sont aussi énormes.
Il y a beaucoup de clients.
Il y a beaucoup de demandes. Il y a plus de demandes que les ressources.
Ah donc, si elle vient tout de suite avant le nouvel an chinois, est-ce qu'il pourrait l'opérer en urgence?
会等待时间会很长，也会做，因为我们现在就是说和医院的，因为我们医院有很多地方，有沈阳的、上海的、北京的、天津的，就是一般都是说几个地方，还有常州的，就是哪个地方有供体，会把患者输到哪个地方，因为这个供体不会等人，只能让去患者去等这个供体。因为供体离开。
Après nouvel an chinois, c'est possible aussi, mais il faut attendre pendant longtemps. puisque c'est les clients qui attendent les organes, c'est pas les organes qui attendent les clients. Les organes, une fois on a sur les mains, il faut faire l'opération tout de suite, sinon on est obligé de les jeter.
D'accord. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'exécutions en ce moment? Il y en a
oui,
beaucoup?
Oui.
会很多医生因为我们经常会每天都会跟医生打电话会有这种沟通医生说春节之前会很多所以一般都不会有就是说等不到的情况
On est presque sûr avant Nouvel An chinois on pourra trouver c'est dans l'organe avant Nouvel An le rein on a beaucoup
donc en clair hein, si je me résume ça coûte 65 000 dollars ça va me coûter 65 000 dollars il faudra que je paye en liquide il faudra que je donne 20 000 dollars de caution mais et ça pourrait se faire dans les 10 jours
une fois vous décidez de faire l'opération dans cet hôpital vous devez payer 5000 dollars comme la caution comme une sorte de garantie après ils vont chercher cet organe pour votre femme
parce que il faut que les examens soient faits avant l'exécution sur le condamné
他们的身体数据和血型都是在他们执行枪决前一周就全能就是得到。
Oui, on fait cet examen une semaine avant l'exécution.
D'accord. Et est-ce que le condamné est au courant? Est-ce qu'il sait que son rein va être prélevé?
知道的。
他们自己都知道。
对。
Ils sont au courant.
Ils sont d'accord?
这个我不太清楚，但是都是知道的。
Ça, elle ne sait pas, mais elle sait qu'ils sont au courant.
Et il faut combien de temps entre l'exécution et l'opération?
这个，因为一般情况来讲，我只知道心脏是四个小时，最多四个小时。
心脏
和肝，我觉得应该差不多吧。
Pour le cœur, pas plus de 4 heures. Pour le rein et la foie, elle sait pas.
Et alors après on n'a aucun problème pour ressortir du pays, il n'y a pas d'exigence particulière des autorités pour pouvoir ressortir avec un rein en plus.
Vous n'aurez pas de problème, c'est pas un mafia, c'est pas la drogue, c'est un changement à l'intérieur du corps. Il y a eu un malade japonais. Après l'opération, il s'est fait dans cet hôpital. Il est rentré au Japon et tous ses médecins autour de lui lui disaient que vous allez voir, vous vivrez pas plus de quelques mois, vous allez préparer votre funérailles. Mais il est encore vivant.
C'est bien, mais ça me plairait que ce soit comme ça aussi pour ma femme. Non, parce que ma femme, j'y suis très attaché. Surtout sentimental.
Ta fille, c'est que l'âge n'est pas trop grand, elle est plus grande. Ta fille est 37 ans. 37 ans, c'est ta femme.
Oui.
Ah,
Thank you.
Alors voilà, on a pu comprendre, et vous aussi d'ailleurs avec nous, comment ça se passe en Chine concernant certaines grèves, certains procédés. Ce que dit la Société britannique de transplantation, BTS, c'est que les dates d'exécution des condamnés sont choisies en fonction de la demande d'organes par des patients, dont un nombre de plus en plus important d'occidentaux. C'est-à-dire si ces affaires nous concernent. Et le professeur Stephen Wigmore de cette BTS dit, d'un point de vue pratique, la vitesse à laquelle les organes sont rendus disponibles donne à penser que les donneurs sont déjà retenus. Alors ces donneurs, eh bien, on va essayer d'en contacter, de parler avec eux au moins par téléphone, et aussi de voir ceux qui sont entre ces donneurs potentiels et puis ceux qui ont besoin d'être greffés. Pour cela, nous avons demandé à Marie Holzman de nous donner un coup de main. Marie Holzman, c'est une éminente sinologue. Elle est aussi l'animatrice de Solidarité Chine, une association qui lutte pour les droits de l'homme et la démocratie en Chine, ce qui vaut à Marie Holzman de ne plus être acceptée, de ne plus être désirable dans ce pays. Aussi, faut-il procéder par téléphone.
Allô.
Hello,
ni hao.
Monsieur Chen Jun.
Oui.
Vous attendiez notre coup de fil.
Oui.
Bon, je vous explique. Je vous appelle de France parce qu'on m'a dit que vous connaissiez des gens qui pourraient nous trouver serein.
Yes.
Yes.
这方面也可以帮你办，但是这个难度很大，因为现在需要移植器官的人太多了。
Oui, je peux vous aider à trouver un organe. Mais c'est difficile, pourquoi? Parce que la demande est tellement forte, donc maintenant, ça commence à être dur à trouver des organes.
Vous êtes médecin?
Non, je ne suis pas médecin.
Et comment?
Mais je peux vous aider à trouver un organe.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça?
Je travaille à l'hôpital de Xianhe et c'est mon patron qui me met en contact avec des gens qui sont susceptibles de donner des organes. Et maintenant, je suis en contact avec deux personnes qui pourraient vous donner un rein et j'ai leur numéro de téléphone.
D'accord, vous êtes un intermédiaire.
Oui.
Et comment on fait alors?
Ce sont deux personnes qui sont donneuses et qui sont de rhésus O.
C'est-à-dire donneur universel?
Oui. Il y en a un qui a plus de 30 ans et l'autre qui a plus de 50 ans. Celui de plus de 30 ans est jeune et en bonne forme.
Parce que moi j'ai besoin de comprendre quand même. Pourquoi quelqu'un est prêt à donner un rein?
Le problème, c'est que nous autres Chinois, nous sommes trop pauvres. Il y a trop de difficultés en Chine. Pauvres Chinois, n'est-ce pas?
Et ils savent les conséquences que ça peut avoir sur leur santé à eux?
Ils savent bien que c'est mauvais pour leur santé. Mais de toute façon, même s'ils ne faisaient pas, ils ne peuvent plus survivre. Ils réfléchissent pas si loin, vous savez. Tout ce qu'ils veulent, c'est gagner l'argent sur ce rein et ils pensent pas à l'avenir lointain.
C'est-à-dire qu'en France, c'est interdit. On peut pas acheter un organe en France.
En Chine aussi, c'est interdit. Ce n'est que si la personne est volontaire que c'est possible.
Et là, ils sont volontaires?
Oui, on ne peut pas dire qu'ils vendent, on peut dire simplement qu'ils sont des généreux donateurs.
Mais ça va me coûter quelque chose, ces généreux donateurs, non?
$200,000, ce serait moins de $30,000 américains, disons.
20 000 euros à peu près.
Voilà. Parce que si vous faites ça au Heilongjiang, bien sûr, ce sera moins cher. À Pékin, c'est cher.
Pourquoi c'est moins cher dans la Réunion? Les reins sont en promotion là-bas?
Non, c'est parce que le niveau économique du Réunion est plus bas.
Donc les gens sont prêts à le vendre pour moins cher encore?
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous trouvez ça normal?
Bah oui, moi je trouve que c'est normal, hein. Les gens du Réunion sont plus pauvres.
Et il y a des médecins qui sont prêts à faire ça, si c'est illégal?
Oui, il y a beaucoup d'hôpitaux maintenant qui font des transplantations. Donc trouver un médecin qui soit prêt à le faire, oui, je pense qu'on peut trouver sans problème.
Mais j'imagine qu'il faudrait une commission pour vous aussi, non?
Mais vous savez, ça dépend tout à fait de vous. Hein. Ce qui compte, c'est que tout se passe bien. Et après, si vous estimez que je dois gagner quelque chose, tant mieux. Et sinon, tant pis, j'estime que j'ai fait une BA et c'est très bien comme ça. Si je prenais une seule partie de cet argent, je serais considéré comme hors la loi.
Ah, vous, c'est une bonne action désintéressée que vous voulez faire, en fait. Merci beaucoup, alors. Merci.
Bye-bye.
À l'intermédiaire, donc, parfaitement désintéressé, bien sûr, bien évidemment, qu'est-ce que vous croyez? Bon, des intermédiaires comme ça, ben, il y en a, d'ailleurs pas seulement en Chine, on le verra si on a le temps d'ici à la fin de cette émission, mais enfin, on en trouve quand même pas mal en Chine. Alors, quant à trouver directement un vendeur, quelqu'un qui est vendeur de son rein ou d'une partie de son corps, eh bien, il suffit d'aller dans certaines toiles, à l'aide de certains hôpitaux, par exemple à Pékin, et on y trouve des numéros de téléphone de personnes qui, pour des raisons diverses, la plupart du temps sont les mêmes, c'est la pauvreté, eh bien, sont prêts à vendre un rein et à se faire mutiler pour un peu d'argent.
Pas de doute, on appelle à Pékin, là. Allô, oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce qu'on a vu votre numéro de téléphone dans les toilettes pour hommes de l'hôpital Xuehe à Pékin.
Ah,
et je vous appelle pour une greffe de rein. Mais je suis prêt à mettre le prix.
Oui, bien sûr, il faut payer. Ça, c'est sûr.
Combien ça peut coûter?
Moi, je dirais au plus bas 500 000 RMB.
500 000 yuan, c'est-à-dire 50 000 euros. Et pour ce prix-là, vous pouvez trouver un rein pour une greffe.
Est-ce que je peux vous demander d'abord quel est le rhésus sanguin?
C'était AB+.
AB型. Ah, mais le problème, c'est que je peux vous proposer qu'un rein en résus A.
Ah, c'est tout ce que vous avez en magasin en ce moment?
Vous savez, moi-même, je pensais faire ça, mais je n'ai pas le résus qu'il vous faut, donc je peux chercher quelqu'un d'autre.
Ah, c'est votre rein que vous êtes prêt à vendre?
Vous savez, je suis un petit patron, j'ai fait faillite récemment.
Vous travaillez dans quoi?
J'étais dans les transports, j'avais deux camions, et puis voilà qu'il y a eu un de ces camions qui a brûlé, et je ne peux plus travailler. L'assureur ne couvre pas ce genre de choses, et je n'avais pas prévu l'assurance nécessaire.
Et maintenant, vous êtes en difficulté, et vous êtes prêt à vendre un organe?
Et oui, parce que j'ai plus d'argent, donc c'est un moyen de m'en sortir.
Ah,
Non, mais mon problème, c'est que j'ai fait un gros emprunt pour acheter mes camions et il faut absolument que je rembourse l'emprunt. C'est ça le problème.
Mais vous avez une idée des risques pour votre santé à vous de vendre votre vin?
Je n'aimais pas ça, c'est autre.
Ben oui, mais j'ai pas d'autre solution. J'ai 10 enfants, j'ai une femme.
On est 40 ans.
Et j'ai 40 ans. Je vais chercher pour vous, hein. Soyez tranquille, j'ai jamais trompé personne.
Mais bonne chance en tout cas.
Merci, au revoir.
Le monde n'est pas une marchandise, disait-on, cette fois-ci, c'est plus le monde qui n'est pas une marchandise, ou qui est devenu, qui ne doit pas être une marchandise, et qui l'est devenu, c'est carrément les corps qui sont devenus des marchandises, et des morceaux de corps sont vendus, des hommes, des femmes se voient réduits à vendre des morceaux de leur corps. Encore une fois, la Chine n'a pas l'exclusivité de ce genre de pratique. On l'a vu en Inde, on l'a vu au Pakistan, on l'a vu dans des pays émergents, comme on dit. On voit ce genre de pratique. La commercialisation des organes en Chine est interdite depuis juillet 2006, mais ça n'empêche nullement ce commerce de continuer comme on est en train de le démontrer. Marie Holtzmann.
On vous a fait appel à vous pour avoir des éclaircissements sur cette question bien précise, la marchandisation des exécutés, à savoir la vente des organes des condamnés à mort pour des transplantations, en particulier pour un marché à l'export, quoi, pour des étrangers qui viennent se faire transplanter. On a téléphoné, $62,000 pour un rein, $150,000 pour un poumon, pas de problème, on vous arrange ça en une semaine. Qu'est-ce qui rend possible ça et qu'est-ce que vous en savez ?
Alors, nous en savons à la fois beaucoup et peu. Beaucoup, c'est-à-dire que depuis le début, même la fin des années 80, nous avons eu des témoignages de la part de Chinois d'outre-mer, surtout Malaisie, Thaïlande, Philippines, etc., qui admettaient avoir été en Chine pour se faire greffer un rein, un foie, des cornées oculaires. Et ils étaient conscients du fait que leurs organes provenaient de condamnés à mort. Parce que eux aussi, on leur avait fait cette proposition en disant, en quelque sorte, on peut programmer votre opération puisqu'on sait très précisément quel jour, quelle heure, quelle minute et surtout quel groupe sanguin on peut vous proposer.
Donc quelle compatibilité.
Et donc quelle compatibilité. Bref, tout est organisé à l'avance. D'ailleurs, on a eu des témoignages récents de gens qui étaient sortis de prison en Chine et qui nous ont dit, à notre entrée en prison, on nous a fait un prélèvement de sang et on nous a pas dit pourquoi.
À l'entrée,
au cas où l'organe serait nécessaire. Donc ça, c'est un fait. On a aussi appris, disons, depuis l'an 2000, que ce commerce était en train de se mondialiser. Autrement dit, la demande d'organes que nous observons à travers le monde, aussi bien pour les diabétiques, pour les hépatiques, enfin toutes sortes de maladies longues et pénibles, c'est ce manque d'organes que nous observons à travers le monde, semble être en partie compensé par la proposition qui est faite en Chine. Alors, évidemment, c'est très choquant à plusieurs niveaux. D'abord, premier niveau, les Chinois eux-mêmes ont besoin d'organes, comme tout le monde. On pense qu'il y a peut-être 2 millions de Chinois qui sont en attente d'organes, mais qu'il est plus rentable de proposer à des Américains, Israéliens et autres qui sont prêts à payer $100,000 pour une transplantation que d'offrir à des Chinois qui sont tout à fait incapables de verser $100,000 pour cette transplantation. Donc ça...
C'est la greffe au plus offrant.
C'est la greffe au plus offrant, mais enfin surtout, comme vous avez dit tout à l'heure, une marchandisation du corps humain, puisque on va courir aux devises étrangères en s'appuyant sur cette marchandise.
Bonjour, et voici les nouvelles de l'outre-mer. Des révélations médicales à faire frémir en Polynésie française. À Tahiti, des particuliers n'hésitent pas à s'envoler pour la Chine le temps d'une opération chirurgicale. Ils obtiennent dans la région de Shenzhen, ce qui prend des années à trouver en Occident, des organes à greffer, prélevés tout simplement sur les condamnés à mort.
François Telitehao, né à Tahiti il y a 60 ans et maîtrisant parfaitement le mandarin et le haka, il a pris contact par internet avec un médecin de l'hôpital 24 des environs de Shenzhen. Plus question pour lui d'attendre une éventuelle greffe en France, trop long, trop aléatoire. En Chine, intervention de 3 heures sous péridurale, 8 jours après son arrivée, 10 jours d'hospitalisation en tout, et tout cela contre 6 millions de francs pacifiques en espèces. François sait d'où vient le rein qui lui a changé la vie.
Après aussi, pas le garder. Comment tu voulais le faire? Tu veux pas? À moi, malade. Tu pars à ton mort ici. Obligé de partir là-bas, il faut soigner ou ailleurs.
En Polynésie, en moins de 2 ans, 7 patients sous hémodialyse ont été en Chine et sont revenus, heureux de vivre à nouveau normalement. Les médecins comprennent l'anxiété des dialysés, mais réprouvent le procédé.
Il semble que ces reins proviennent de condamnés à mort exécutés, et ça, ça pose déontologiquement et éthiquement un très très sérieux problème. C'est des pratiques que nous, dans notre déontologie occidentale, on ne peut pas comprendre.
Reste que ce qui est moralement condamnable n'est pas légalement répréhensible. Ces patients ont le droit de vouloir prolonger leur vie.
Il faut pas attendre mort ici. Obligé de partir là-bas, il faut soigner ou ailleurs.
Voilà un document RFO du 20 octobre 2005. On voit que la question n'est pas seulement chinoise, mais toute la question est de savoir d'où viennent ces organes, qui sont les donneurs. Je l'ai dit, 20 000 greffes en Chine chaque année, et selon une organisation comme Amnesty International, jusqu'à 90% des organes transplantés en Chine proviendraient de condamnés à mort. Marie Holtzman.
Alors, bien sûr, la question qui se pose, c'est d'où viennent ces organes? Là aussi, il y a eu quelques indiscrétions, notamment de la part d'un vice-ministre de la Santé qui s'est exprimé à Manille il y a maintenant 1 an et demi, et qui a dit les organes proviennent à 95% des exécutés. Alors, depuis, les autorités chinoises font des protestations en disant, c'est même pas vrai, tous nos donneurs sont des gens consentants. Mais en disant ça, ils disent pas qui sont ces donneurs consentants. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un couloir de la mort en Chine, si on vous donne un papier à signer, vous avez très peu de marge de manœuvre. Donc qu'ils aient obtenu la signature et le consentement donc des condamnés à mort, c'est évident qu'ils vont l'obtenir, parce que les pauvres n'ont pas le choix. Donc ça, c'est pas un argument.
Mais alors, est-ce que c'est légal ou pas en Chine, cette vente d'organes?
On a appris que en 1984, un décret était paru en Chine qui expliquait comment procéder au prélèvement d'organes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce décret correspond exactement avec la mise en commerce d'un produit chimique, la cyclosporine, qui permet les transplantations et qui évite le rejet des organes. Donc, on ne peut qu'admirer là la réactivité du gouvernement chinois, qui a immédiatement vu l'intérêt de ce produit et l'intérêt donc du prélèvement des organes sur les corps des exécutés. Or, ce décret est très explicite. Il est dit, les prélèvements d'organes se feront sur les lieux des exécutions, dans des véhicules banalisés, avec des personnalités qui ne porteront pas de blouse blanche, etc., etc. Autrement dit, la procédure se fera dans le plus grand secret.
Et qu'est-ce qu'on sait justement de la procédure, de comment on procède, où ça se passe?
On ne peut pas généraliser, parce qu'évidemment, on n'a que des informations très ponctuelles, mais dans le cas d'informations ponctuelles, on se rend compte que il y a toujours eu collusion entre 3 données. La prison, les instances juridiques qui savent à quel moment se fera l'exécution, etc., et les hôpitaux militaires. C'est ça qui est important. Autrement dit, à partir du moment où c'est un hôpital militaire, il ne s'agit pas de dérive. Si on était dans une clinique privée qui marcherait à coups de millions étrangers, bon, qu'il y ait des dérives, ce serait scandaleux, mais ce serait, je dirais, presque banal, ça arrive un peu partout. À partir du moment où c'est un hôpital militaire, on peut être certain qu'il ne s'agit pas d'une dérive, mais réellement d'une stratégie organisée. C'est en cela que le phénomène des transplantations d'organes et de la commercialisation vers l'étranger est scandaleuse.
Est-ce qu'il y a des voix qui s'opposent à ça en Chine?
En Chine, le Chinois moyen ne le sait pas. Ça, c'est clair. Il n'est pas du tout au courant de ce qui se passe. Et la plupart des Chinois auxquels nous racontons ça, qui sont de passage en Occident, sont très saisis. Enfin, ils n'y croient pas. Mais manifestement, il y a des gens qui sont au courant quand même. Hein. Et ce qu'on observe surtout, c'est qu'il y a maintenant des rabatteurs. C'est-à-dire qu'il y a des Chinois qui sillonnent les pays étrangers, le Japon, les États-Unis, la Thaïlande, la France, Israël, etc., pour dire... Voilà, il y a ce phénomène.
Des VRP, quoi, en fait.
Des VRP. Et moi-même, j'ai été très saisie à l'occasion de la maladie cancer du foie d'un ami chinois, de voir apparaître très rapidement des amis chinois qui me disaient « Ah, mais pourquoi est-ce que notre ami ne va pas se faire transplanter en Chine ?» Et je n'avais jamais entendu parler de ça directement à Paris. Or là... dès qu'il y a eu un malade, tout d'un coup, les langues se sont déliées, et tout d'un coup, j'ai appris que un tel s'était fait transplanter en Chine, et était reparti avec un foie neuf, et qu'il allait très bien.
Donc, il n'y a pas de raison que les affaires ne continuent pas à prospérer.
Ben, vous savez, le gouvernement chinois, en général, mise sur l'amnésie de l'Occident. C'est-à-dire qu'il sait très bien que les Occidentaux sont les victimes, c'est les fashion victimes des médias, et que donc un scandale ne durera jamais plus de 2 mois et demi. Alors, bon, en ce moment, on en parle, vous en parlez à votre émission, d'autres en parlent, mais bon, d'ici 3 mois, il y aura un autre scandale, on n'en parlera plus, et ce sera business as usual.
La douleur, insupportable, d'un drogué en manque dans un commissariat de police chinois. La douleur physique, mais aussi la peur, car il est également trafiquant et il sait qu'au bout de la procédure judiciaire, pour lui, il y a la mort. Pour les trafiquants, le code pénal chinois est clair, pour plus de 50 grammes, c'est la peine capitale. Une peine à laquelle les autorités chinoises donnent un maximum de publicité. Après jugement, les condamnés à mort sont présentés au public dans un stade. Il s'agit d'impressionner les masses. C'est pour l'exemple qu'on exhibe ces condamnés qui n'ont plus que quelques minutes à vivre. Les sentences tombent des haut-parleurs. La peine de mort pour chacun. Contrairement à ce qui a souvent été dit, l'exécution elle-même a lieu ailleurs. Les condamnés sont poussés vers leur dernier voyage. La routine pour la noria de représentants de l'ordre qui les entoure. Puis c'est l'exécution.
Un journal télévisé du 1992, un reportage de Jérôme Bonny en Chine. Régulièrement, le trafic d'organes de condamnés à mort en Chine est dénoncé, et régulièrement, on s'intéresse et on s'indigne du nombre de condamnés à mort et d'exécutions en Chine. À n'en pas douter, ce sera un des thèmes qui sera évoqué, il faut en être certain, par nos confrères lors des Jeux Olympiques d'août 2008. En attendant, Marie Holtzmann.
Votre avis sur la question de la peine de mort en Chine. Impossible d'avoir ne serait-ce qu'un chiffre du nombre d'exécutés en Chine. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est le pays où on en exécute le plus chaque année.
Oui, le nombre d'exécutés en Chine est un secret d'État qui est très bien gardé. Mais malgré tout, on fait des recoupements. Donc, sachant, par exemple, qu'une province va exécuter 500 personnes au cours d'une année, qu'on apprend ça par le travail d'un avocat ou autre, puisqu'il y a 30 divisions administratives en Chine, vous multipliez 500 par 30, vous arrivez à 15 000. C'est pour ça que le chiffre de 15 000 a été proposé par un député lors d'une assemblée nationale populaire, il y a maintenant 2 ans. Ensuite, ce chiffre a été un peu réfuté, on a dit 10 000, et puis maintenant, certains disent 8 000, d'autres disent 12 000. Enfin, vous voyez, c'est affreux à dire, mais on n'est plus à 4 000 près, quoi.
Ce qui est comparativement beaucoup plus que d'autres pays exécuteurs, beaucoup plus que les États-Unis ou...
Ben, si on disait que les États-Unis avaient une population semblable à celle des Chinois, les Chinois exécuteraient 7 fois plus que les États-Unis. Donc c'est évidemment colossal.
Parce que qui est condamné à mort en Chine ?
Eh bien exactement, il y a quand même 65 chefs d'inculpation et
65 raisons pour lesquelles on peut être exécuté, ça veut dire.
Oui, mais j'insiste, et dans ces raisons, il y a souvent beaucoup de flou, beaucoup de marge de manœuvre, hein. Par exemple, une fraude à l'assurance peut être passible de la peine de mort. Si vous avez, je sais pas, moi, brûlé votre garage et ensuite vous demandez une compensation alors que vous l'avez fait exprès parce que je ne sais pas quoi, vous pouvez être exécuté très rapidement. Par exemple, dans certaines provinces pauvres, si vous détournez, je ne sais pas, moi, 500 euros, c'est-à-dire 5000 yuan, vous pouvez éventuellement être condamné à la peine de mort. Alors que dans une autre province, vous allez détourner 50 000 euros, 500 000 yuan, et vous serez condamné à 5 ans de réclusion. Donc, vous voyez, il y a une marge de manœuvre phénoménale.
Est-ce qu'il y a aussi des prisonniers politiques ou d'opinion qui sont exécutés ?
Alors, ça, c'est un point sur lequel nous faisons des recherches en ce moment. Je dirais globalement, non. Avec une exception, enfin, quelques exceptions quand même notables, les ethnies minoritaires. Et tout particulièrement les Ouïghours. Étant donné qu'ils n'ont pas une figure emblématique ou pas suffisamment emblématique pour les représenter, et qu'il n'y a donc pas une pression mondiale pour les aider, les Ouïghours sont exécutés à, enfin, j'ose pas dire à tour de bras, mais presque. Il y a un Ouïghour qui a été exécuté il y a un mois, sous des prétextes qui sont extrêmement troubles. Enfin, bien sûr, on l'accuse de sécessionnisme, d'indépendantisme, etc. Mais quelles sont les preuves qu'il aurait, par exemple, jeté des bombes, tué des gens ou souhaité assassiner des gens? On n'en a pas.
Et alors, comment s'est vu un pays abolitionniste comme la France, depuis la Chine?
Oh, j'ai même pas vu parce que il y a quand même l'exemple des États-Unis. Or, les États-Unis sont une démocratie et ils sont extrêmement éloquents quant à la nécessité de maintenir la peine de mort. Ça, il faut bien le reconnaître, l'opinion publique chinoise est très majoritairement favorable, enfin disons très majoritairement influencée pour dire que sans la peine de mort, la société serait dans un chaos total.
Voilà, c'est garant de l'ordre social.
Voilà, c'est considéré comme ça. D'abord, c'est présenté comme ça par le gouvernement et c'est accepté comme ça par la population.
Planète Monde, scandale en Russie, un trafic d'organes dans les hôpitaux moscovites. Le centre de coordination des dons d'organes de la ville de Moscou aurait prélevé, sans la moindre autorisation, des reins sur des patients qui étaient dans le coma.
Lorsqu'un malade, de préférence jeune et sans blessure grave, est dans un état proche de la mort, il est maintenu en vie par tous les moyens. Il s'agit juste d'attendre l'arrivée des organiki, les spécialistes des dons d'organes. Dès qu'ils sont en place, le personnel médical de l'hôpital arrête les soins aux malades et laisse les organiki faire leur travail. Il prélève les reins qui partent immédiatement pour une destination inconnue. Une fois les organiki repartis, les infirmières recousent le patient. Sa famille ne sera jamais mise au courant. Un commerce qui ne concerne pas que la Russie.
Voilà qu'on apprend qu'au Paraguay, on a découvert un trafic international de nouveau-nés créés pour alimenter des banques d'organes. Mireille Lemaresqui.
Des femmes enceintes brésiliennes sans argent viendraient accoucher au Paraguay où leur bébé serait ensuite vendu aux États-Unis pour des transplantations d'organes. Affaire sordide que des membres...
Alors les affaires de transplantation d'organes, vous le constatez à travers les infos, les reportages sur France Inter, sont une affaire, c'est une affaire mondiale. En Chine, c'est le trafic d'organes de condamnés à mort qui pose un problème très particulier. Merci à tous, en tout cas. Merci à Marie Holzmann, à Bruno Philippe, correspondant du quotidien Le Monde à Pékin, à Luc Richard, notre traducteur, également au professeur Navarro de Montpellier, qui refuse, quant à lui, de former ses confrères chinois à cause de ces histoires de transplantation de condamnés à mort. Merci à notre traductrice Yang Yang. Nous vous signalons la parution du nouveau livre d'Acrimed, ça c'est autre chose, média immobilisation sociale aux éditions Sileps, également le film de Christian Rouault, Les Lippes, l'imagination au pouvoir à ne pas manquer. À la technique aujourd'hui, Julien Dumont et Loïc Frapsos, c'est Yann Chouka et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission, avec Raphaël Moutarde au montage, Charlotte Perry assistante, et Christophe Imbert qui vous attend tout près du répondeur au 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour la base, si j'y suis, les infos, Jacqueline Pétrose, salut.